Bien, on va tâcher de s'attaquer à la question. Comme hier après-midi, je vais vous proposer qu'on fasse un premier tour où, grâce à vos grandes qualités de cognitif et de vocabulaire, vous allez pouvoir dire ce que vous avez dit. Donc je redis, on fait un bref tour comme hier. Vous avez su être très concis et très efficace.
Donc, à notre habitude, on a classé cohérence, spécificité. Donc, il rigole. Donc, au niveau des cohérences, hein, puisqu'on en a quand même plus trouvé qu'on s'est moins attaché aux spécificités des trois interventions, donc on a noté une cohérence sur la présentation des exposés, nous présentant des sujets qui étaient complexes, mais d'une façon identique, avec une façon très segmentaire, donc les choses bien bien découpées, alors qu'on sait bien que dans la réalité, tout est bien lié. Et donc, voilà, ce qu'il va falloir maintenant extraire, c'est le lien de toutes ces choses très, très complexes qui paraissent simples quand on nous les expose. Ensuite, on a noté un recentrage constant sur la logique à l'autre, avec, par exemple, le tenir ou donner conseil, juste comme exemple illustratif, mais cette idée de logique à l'autre. Les trois exposés, alors un petit peu moins le premier du fait de sa spécificité pour le coup, mais s'attache à avoir toujours un point de vue enseignant et un point de vue élève, avec toujours interaction entre les deux. C'est plutôt pas mal, mais voilà, des fois on pourrait se placer que d'un point de vue, mais là on voit bien que toujours le point de vue de l'un est soumis au point de vue de l'autre. Et tout ça avec un souci de recherche d'efficience dans notre métier. Et puis au niveau des spécificités, la collègue soulignait le vif intérêt qu'elle avait eu pour le lien entre l'intervention sur l'évaluation et la mise en place des tableaux de bord qui sont demandés maintenant, en particulier dans les RRS, mais partout.
Alors donc on a essayé aussi de répondre à la question telle qu'elle était posée. On y a répondu à notre manière. Donc je vais lire ce que nous avons écrit. Le problème des évaluations, elles sont séparées dans l'institution, dans les apprentissages institutionnels, elles sont séparées des apprentissages, les évaluations. C'est un dispositif, il y a un dispositif d'apprentissage d'un côté et un dispositif d'évaluation de l'autre. Et même quand il peut y avoir confusion entre les deux d'ailleurs. Elles sont séparées parce qu'elles contribuent au tri social. Et nous avons eu l'impression que Anne Jorot réintégrait l'évaluation au bout de son processus de présentation, que vous réintégriez les évaluations dans le dispositif d'apprentissage et que vous avez fini par parler strictement d'apprentissage au final. C'est comme ça qu'on a pu l'entendre en tout cas. Donc aussi que toutes les deux, vous avez défini des postures d'apprentissage. Ça, c'était intéressant aussi de voir que vous ne les connaissiez pas, les propositions de l'une, les propositions de l'autre, que vous ne les connaissiez pas. C'était intéressant d'entendre ça. Alors, avec la proposition, en fait, que la transformation du métier d'enseignant passera par cette prise de conscience de ces postures d'apprentissage. Il faudra aller s'interroger, aller se questionner sur mais comment ils apprennent, pourquoi ils apprennent comme ça, etc., etc., pour pouvoir faire évoluer le métier d'enseignant. Et en fait, on aurait pu, enfin pour ma part, en tout cas, moi je suis allé chercher ça chez Jean Piaget, Équilibration des structures cognitives, processus central du développement, 1975, où il définit l'activité régulée, l'assimilation et l'accommodation, et qu'en fait, je pouvais lire ce que vous disiez à travers le concept de Jean Piaget. Alors la définition ensuite, le deuxième point, la définition de la professionnalisation. Et il y a des échos qui se font avec les postures d'élèves dans la reconnaissance des gestes acquis par les institutions. On peut faire un parallèle avec l'évaluation des apprentissages et du développement personnel. Donc, le premier intervenant ne parle que de l'enseignant, alors que les deux autres intervenantes semblent, enfin, mais c'est une première lecture, hein, parlent du lien prof-élève. Il y a un autre parallèle. La professionnalisation, c'est le nom donné par l'institution, et le développement personnel, celui qui est donné par... Oui, voilà, c'est pas pour rien que j'ai dit ça. Il faut descendre après. Et donc, le développement professionnel, ça serait donné par l'apprenant lui-même. Alors, dans le parcours de l'enseignant, troisième point, apprentissage sur le tas, autorégulation, etc. On trouve des échos avec le processus d'apprentissage de l'élève. Il s'agit finalement de la même chose. D'un côté l'institution, de l'autre côté l'enseignant, il y a des constantes, la co-implication du sujet apprenant et de l'enseignant, et l'institution qui abandonne ses profs, par exemple dans l'éducation prioritaire, et la démission réciproque prof-élève. L'institution qui ne croit pas en ses enseignants. Donc l'institution, dans sa manière de ne pas croire en ses enseignants, eh bien, elle peut proposer une inspection jugement. Parfois, il y a un dispositif comme ça qui intervient où le proviseur fait appel à l'inspecteur parce que il y a un enseignant qui pose problème et que finalement, ce qu'on va proposer, c'est une évaluation jugement. Alors, on aurait aimé, quatrième point et dernier point, c'est la dernière ligne en réalité, on aurait aimé que soit développée la fonction et l'importance du langage dans la relation pédagogique en classe.
Voilà. Alors, moi, je voulais rebondir donc sur ce qui a été dit sur l'évaluation. Nous, donc, c'est un point qu'on a traité dans le groupe où on s'est dit, on s'est demandé si Anne Jorot ne nous présentait pas un idéal de l'évaluation et que dans la réalité, l'évaluation est un jugement, que dans le système, de toute façon, on a une évaluation qui est jugement et que y a une orientation, c'est historique, on évalue les élèves pour les orienter, etc. Donc, ouais. On s'est posé cette question-là. Alors ça, c'était à la fin. Donc je vais revenir au début. Donc nous, effectivement, on a pensé que l'intervention de... On a trouvé que l'intervention de Richard Witorski était plutôt macro, qu'elle prenait la professionnalisation et le développement de professionnels sur un plan plus macro. Mais on a retrouvé les mêmes termes chez nos trois intervenants en termes de compétences, de logique et de posture. On peut mettre en lien tout ça. On a trouvé qu'on pouvait mettre en lien les logiques de Witorski et de Bucheton. Donc, excusez-moi, c'est pour aller plus vite. Chez Richard Witorski, on agit... sur les postures de formation, il nous a développé des postures de formation sur lesquelles on peut agir en tant que formateur, on peut toutes les utiliser. On les a mises en lien avec les postures de l'enseignant face aux élèves de Dominique Bucheton, sur lesquelles aussi l'enseignant va pouvoir agir sur ces différentes postures. Donc on a fait ce lien-là. On a travaillé sur... alors après, je ne sais plus, je vais passer le micro à mon
collègue. Non, c'est parce qu'on se complète. On a... voilà. Et on avait fait le lien aussi avec un terme qui était celui employé par Anne Jorot sur la partie préparer un élève à apprendre. Alors, est-ce que du côté du formateur, il faudrait voir. Mais aussi où on retrouve ce questionnement autour des postures focalisatrices et ainsi de suite. Hein, alors, voilà. La question étant quand même, ça n'évacue pas la question qu'on s'est posée au niveau du groupe. Est-ce que quand vous employez le terme posture, vous y mettez, vous, chacune d'entre vous, le même sens, hein? Voilà. Mais il nous faudrait plus de temps pour relire vos interventions et voilà.
Bon, je voulais juste faire une remarque sur le travail en lui-même. C'était pas facile parce qu'on n'a pas entendu les mêmes choses. Parce qu'on a étouté avec nos modèles de référence et c'était très net. Voilà, donc juste pour dire ça et que... avec toute modestie. Alors, on s'est plié à la consigne.
Non. Il y a le maître là, attention.
Hein, on a essayé. Posture scolaire. Mais on a eu du mal. On aurait défini la cohérence du macro au micro, mais ça a déjà été dit, c'est-à-dire du macro, de qu'est-ce qui nous permettait... De comprendre, je vais pas refaire ce que vous nous avez dit, j'en suis pas du tout capable, effectivement de comprendre les postures d'aujourd'hui dans le rapport à la professionnalisation, jusqu'à la question de la classe et comment tout ça interagit, hein, et fait écho, hein, cette idée de faire écho. Il nous a semblé aussi une cohérence, on n'était pas tout à fait d'accord là sur les termes, mais entre le terme de flexibilisation que vous avez utilisé, Richard Witorski, et puis après, tout ce qu'on a senti comme la nécessité que le métier d'enseignant évolue et en même temps combine, hein, que ce n'était pas une posture, mais c'était des postures, la notion d'efficience, de la capacité à circuler, avec quelque chose autour de ça, quoi, qui, avec des terminologies extrêmement différentes. Mmh. Pareil, on pourrait poser la même question que ceux d'avant. Est-ce que vous voulez vraiment dire la même chose ou pas? Parce que c'est vrai que quand ma voisine m'a dit, tu dis flexibilisation par rapport au métier d'enseignant, je me suis dit, je suis pas sûre que les autres intervenantes, voilà, si on parle de flexibilité du travail, on est encore ailleurs, hein, voilà. Donc ça nécessiterait sûrement, c'est la difficulté hein, de cet exercice. Voilà. Et puis, ça mange pas de pain. Hein. Pour nous, il y a une espèce de fil rouge commun autour de la question des personnes, du collectif. Alors particulièrement pour les deux dernières interventions, mais même moi je trouve être le premier, sur la nécessité de la mise en place d'espaces collectifs de formation, d'espaces collectifs de travail. Et puis un deuxième axe autour des questions de l'écho là entre l'écho voire de l'interaction plus que ça encore du lien indescriptible d'une certaine façon de l'efficience partagée élève-enseignant, cet aller-retour permanent de cette interaction de la classe entre la posture de l'enseignant et la posture de l'élève, que ce soit dans la pratique du quotidien comme dans la pratique de l'évaluation, hein, en reprenant ce qu'ont dit les collègues sur l'intégration de l'évaluation dans le métier d'enseignant, dans sa tâche première. Puis on a eu une discussion sur l'évaluation, justement. On n'avait pas forcément compris les mêmes choses entre évaluation formative et évaluation certificative. Est-ce que l'enjeu, il était tel que moi je l'ai entendu, c'est-à-dire que la difficulté des jeunes enseignants, c'est de pas bien arriver à définir si c'est l'un ou si c'est l'autre, et de mélanger un peu les deux, ou si l'enjeu c'était encore d'inventer autre chose dans l'évaluation. Donc voilà, on était sur ces deux postures-là, on s'est pas mis d'accord. Voilà, sur les spécificités, peut-être plus de part à la prescription chez vous, monsieur Vitorski, hein, sur la place de la prescription et comment les choses s'organisent autour. Voilà.
Alors nous avons commencé donc logiquement par les cohérences. C'était un point d'appui pour lancer ensuite la réflexion, mais nous nous sommes arrêtés à simplement définir les cohérences. Donc on en a défini un certain nombre. Les trois interventions, par exemple, nous les avons senties en résistance face à l'ère du temps, par rapport aux indicateurs généraux, aux gestions par résultat, à l'évaluation répétée. On s'est demandé s'il n'y avait pas un fond de constructivisme derrière chacune des interventions. On a noté également une volonté de communiquer les résultats de leurs recherches vers le terrain. Reconnaître la complexité du métier d'enseignant était également une posture commune. De là, la volonté de proposer des moyens, des outils pour accompagner peut-être cette complexité. Les trois intervenants, on pouvait voir en tout cas peut-être pas une volonté directe, mais on a vu des modèles se croiser. La posture réflexive est également développée. Réflexive, oui. Ensuite, arrêter de donner des conseils pour aller vers un tenir conseil en définissant l'objet, raccrocher cela à une activité. Et enfin, une valorisation de la parole de l'autre, un regard humaniste, progressiste, qui vise peut-être une déontologie et une éthique. Mais en même temps, ces visions étaient soucieuses de mettre la barre assez haut. On ne se contente pas de simples doléances, même si on sait que les choses doivent se faire petit à petit.
C'est un peu le même que celui de madame tantôt. On n'a pas eu vraiment le temps de déborder là-dessus. Juste pour séparer que monsieur était plus de l'ordre, un peu de la sociologie du travail. Donc il pouvait parler de la formation aux enseignants, mais il pourrait parler de plusieurs formations aussi, parce qu'il y a une connaissance ample du champ, alors que vous êtes très intimement lié aux enseignants, à la classe, à ce qui s'y vit, est-ce qu'il peut s'y changer.
On a eu du mal, effectivement, à rentrer dans la consigne. Nous sommes également restés sur les cohérences. Puis d'intervenir comme ça en fin de cours, c'est pas facile, parce que j'ai entendu plein de choses tellement bien dites que je n'ai pas grand-chose à rajouter, en fait. Hein? Donc, quand même, pour se limiter, essayer de se limiter au point que nous avons abordé dans notre petit groupe, d'abord, la question de... une proposition du métier d'enseignant comme quelque chose d'hyper complexe, j'ai envie de dire vraiment hyper complexe, avec à chaque fois des cartographies extrêmement fouillées, hein, de postures, de différentes choses, qui suppose que l'enseignant, il arrive effectivement à jongler avec tout ça. La deuxième idée, c'est l'idée de la co-construction des situations, de la classe, et... À titre personnel, j'aime bien l'expression de situation d'enseignement-apprentissage. Il y a bien les deux, et c'est dans cet entre-deux que ça se construit, que se construisent les apprentissages des élèves et le développement professionnel de l'enseignant. La troisième idée, celle-là peut-être moins entendue quand même, faut peut-être apporter un petit quelque chose en plus, c'est la question du temps. Quand on parle de réflexivité, c'est lié, mais le temps à la fois nécessaire pour l'apprentissage de l'élève, les moments où l'élève est amené à tâtonner, à faire des erreurs, à passer d'un premier G à un deuxième G, etc. Et puis ce temps pour les enseignants aussi bien que pour les élèves de cette pause réflexive ou pour faire le point, pour assurer des apprentissages. Quatrième point. Évidemment, ça concerne l'idée de résistance. Nous trouvons, de par notre passé en formation continue, que la résistance elle est surtout passive et pas très très active. Il s'agit de conserver une espèce d'image qui a sans doute jamais existé du métier d'enseignant comme de l'école, et que ce que propose Dominique Bucheton, évidemment, c'est une résistance très très active. Que bah oui, il y a du boulot à faire, quoi.
Mais moi, je voudrais juste enchaîner par rapport à cette résistance passive des enseignants. C'est qu'elle va avoir des répercussions dans leur posture en formation, et ils seront plutôt sur la formation modelage que sur la formation qui ou le retour sur leur pratique. Pour toujours dans le cadre de ce centre de pause et dans la formation modelage, ils vont demander des recettes tout de suite et ils ne vont pas s'autoriser à penser. Voilà, donc je dirais que ça va avoir une autre conséquence. Je trouve que dans ce cas-là, avec ces enseignants-là, on est quand même très loin de la professionnalisation et on en reste encore quand même très près du métier. Et c'est un tel frein à l'heure actuelle que... qui peut s'expliquer aussi même par le sentiment de désabusement, la fatigue qu'ils ont dans leur métier, mais qu'on n'arrive plus à leur proposer des séances de formation avec un retour sur leur pratique et aller plus loin que leur pratique, ce que disait M. Witorski en début de matinée.
Juste un dernier point qui m'est revenu là. Je sais bien qu'il y en avait cinq. Le cinquième, c'est la question de l'importance accordée au langage, point de suspension et à l'écoute.
On retrouve pas tout à fait nos propos dans le compte-rendu qui a été tapé. Alors on voulait, si c'est possible, faire une petite rectification, si c'est possible. Donc on n'a pas dit qu'on mettait en relation. On agit sur les postures de formation pour agir sur les postures d'enseignant, non. On a dit qu'on mettait en parallèle la logique de Richard Witorski et de Dominique Bucheton sur les différentes postures, les différents dispositifs de formation ou les postures du formateur, qu'on pourrait appeler comme ça, et les postures de l'enseignant face à ses élèves. Et comme l'enseignant agit sur toutes ces postures, le formateur peut agir sur toutes les postures de... Voilà, on transpose. On a transposé les deux.
C'est pas tout à fait la parole du groupe, c'est la mienne là. Sur résister, c'est vrai que ce que vous disiez, j'avais juste envie d'ajouter que on est en face aujourd'hui d'une situation où la question de la résistance est une question qui se parle, mais qui s'analyse pas complètement, et que moi, ce que j'ai aimé dans vos propos, Dominique Bucheton, c'est qu'effectivement, on est du côté de la résistance qui propose et pas de la résistance qui dénonce. Et qui voilà. Et donc de résistance qui dénonce forcément, mais qui construit. Et c'est vrai qu'on aurait sûrement intérêt, mais c'est peut-être pas le lieu là, à réfléchir sur cette notion de résistance qui est un peu à toutes les sauces aujourd'hui et qui du coup on renomme pas précisément sur quelles sont les conduites précises. Je demande pas de normer la résistance, mais d'en causer quoi. C'est tout, que ce soit un espace, que ça se parle et qu'on puisse voilà. Et que ça s'analyse. Et moi, je suis bien en adéquation avec... Voilà, c'était juste pour la remercier.
Donc, merci d'avoir eu la vigilance de me faire réécrire ce que j'avais mal traduit. Juste un truc qui m'a fait réagir, moi, c'est dans ce que j'ai entendu sur quid de l'opposition entre professionnalisation et métier. Comme si, si j'ai entendu, la professionnalisation, ça serait ce qui permettrait de dépasser quelque chose qui serait incomplet dans le métier. J'ai peut-être là encore mal compris, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui serait sûrement à reprendre cet après-midi.
Merci Richard, vas-y.
Merci pour vos réactions et vos mises en lien. Je voulais peut-être reprendre... chacun d'entre nous reprendra ou réagira de façon différente, sans doute. Je voudrais reprendre peut-être quatre ou cinq points. Premier point, je procède un peu dans cet ordre-là, hein, autour de la question de la flexibilisation et de l'efficience. Vous avez bien perçu, mon approche était sans doute plus dans des catégories de compréhension de logique d'apprentissage ou de fonctionnement de dispositifs de façon assez large, c'est vrai. Lorsque je parlais de flexibilisation, c'est en lien évidemment avec ce que l'on constate dans beaucoup de secteurs et milieux d'activité, pas forcément dans le secteur de l'enseignement, même si je pense que on peut avoir une définition peut-être, mais tout ça se discute, de la flexibilité dans le secteur de l'enseignement, parce que il y a quand même des évolutions importantes des publics, des demandes, des prescriptions institutionnelles, locales, les interlocuteurs, les partenaires sont aussi source de demandes nouvelles. Donc il y a probablement là aussi, mais c'est vrai que quand vous avez vu le mot flexibilisation sur la première ou deuxième page, je sais plus, de PowerPoint, c'était en lien avec l'idée que dans bien des secteurs professionnel, ce qui est demandé finalement, et c'est tout le discours autour de la polyvalence, de l'autonomie, de la responsabilité, etc., ce sont des gens qui sont capables de s'adapter en permanence à des situations professionnelles qui évoluent, etc. Et c'est vrai que dans certains secteurs, ça devient une tendance très très forte et qui crée d'ailleurs des situations d'inconfort professionnel entre des injonctions paradoxales. Il y a certains travaux qui le montrent bien, entre on demande aux gens plus d'autonomie, de responsabilité, d'adaptation, mais en même temps on prescrit des règles plus présentes, ou on demande aux gens de s'auto-prescrire des règles qui ensuite deviendront une norme collective, en quelque sorte. Donc, voilà, c'était donc ce point-là. Deuxième point, est-ce que je garde la parole ou pas? Non? Oui? Je veux pas non plus. Alors, profession-métier, une question que relayait Patrick tout à l'heure. Professionnalisation-métier. Difficile de répondre à... Alors, je ne sais pas par quel bout la prendre, mais on aura peut-être des points de vue différents sur la question. Il y a des définitions, bien sûr, classiques du mot profession, en sociologie des professions, et encore, selon les courants, il y a des définitions un peu différentes, mais en gros... Il y a l'idée que vaut mieux être titulaire, vous savez, d'une profession parce que il y a un statut social un peu meilleur, on suppose une autonomie plus grande, des savoirs qui se sont universitarisés, donc l'activité repose sur des savoirs scientifiques de haut niveau, paraît-il, etc. Ça, c'est une conception très classique, mais qui fonctionne assez bien dans certains lieux et dans certains environnements socio-économiques. Je pense, par exemple, aux États-Unis, on voit bien que ça traduit des dynamiques de constitution de groupes professionnels. Chez nous, par contre, plusieurs, en tout cas, ont tendance à le penser. Et s'agissant des activités enseignantes, je pense aux travaux de Raymond Bourdoncle, par exemple, pour qui, effectivement, ce qui est de l'ordre du mot profession n'a pas réellement de traduction concrète, parce que on n'est pas dans le même contexte. On ne peut pas dire, on est plus proche dans beaucoup d'activités qui sont les nôtres, pas seulement dans le secteur de l'enseignement, de formes articulées entre un peu du bricolage, de la formation bien sûr de haut niveau dans bien des secteurs reposant sur des savoirs scientifiques et techniques, mais on n'a pas ce modèle de la profession libérale, vous voyez. Donc ça c'est une une difficulté. Alors du coup, profession, métier, activité, fonction, tout ça a tendance à se confondre un peu chez nous. On a bien sûr des catégories sociales. Certains disent une fonction professionnelle, c'est pas la même chose qu'un métier, une profession, mais ce sont des catégories sociales. Quand on regarde la réalité, il y a encore une fois une diversité, alors que dans certains environnements, le mot profession a un sens bien particulier. Quand vous regardez chez les anglo-saxons, ça a un sens particulier. Là, c'est univoque. On sait ce qu'est une profession, ça a des caractéristiques particulières, socialement établies. Et alors, du coup, le mot professionnalisation, peut-être pas reprendre les trois sens que j'indiquais tout à l'heure, mais on voit bien qu'il y a en arrière-plan une valorisation sociale consistant à dire se professionnaliser, c'est aller vers une autonomie plus grande, vers une expertise plus forte. Ça veut pas forcément dire se constituer en profession, bien entendu, au sens anglo-saxon du terme, mais on voit bien qu'il y a cette idée derrière la professionnalisation d'un dispositif qui permet d'aller vers une efficacité plus grande, et c'est, il y a probablement le lien là à faire avec et c'est probablement l'un des sens qui existe, enfin qui est très très fortement attaché au mot professionnalisation, c'est l'efficacité du travail, hein. Et puis je voulais peut-être encore deux points plus rapides. Ou trois points. mais je peux m'interrompre et puis les reprendre après. Oui.
Oui. Deux ou trois remarques. Votre synthèse était tout à fait passionnante. Écoutez. Parce que du coup, ça nous a fait prendre conscience de points communs. Alors, moi, je vais peut-être revenir sur le mot posture, parce que le mot posture est très à la mode. Il est employé, c'est un mot ordinaire, hein. Et donc, ici, on essaie de l'employer scientifiquement, ce qui nécessite des définitions. Pour ma part, mais je crois qu'Anne est très, très propre, on a tellement travaillé ensemble qu'on doit être très cousine sur ce point-là. Une posture, c'est pas un habitus à la Bourdieu, d'accord ? Parce qu'on dispose de plusieurs postures. Une posture, c'est un ensemble de concepts, je suis très proche de Vergniaud au moins, de concepts en acte qui se sont mis en paquet, hein, et qui fait qu'on a une manière d'être dans l'action, compactée, et pas forcément consciente, hein, parce qu'on ne se pose pas trop la question, ça vient des concepts en acte. D'où la nécessité de les théoriser. Donc c'est vraiment cette espèce de paquet de choses qu'il faut identifier, c'est pas... Voilà. Donc il y a derrière les mots qui vous sont proposés, il y a toute une théorisation qui a été faite. Et donc du coup, c'est pas flexibilité peut-être, c'est circulation. Hein. Moi j'ai toujours été frappée parce que les élèves en difficulté sont des élèves qui, langagièrement et posturalement, ont tendance à ne pas pouvoir changer de braquet. Hein, alors que l'élève en réussite, lui... il va prendre le problème de 3-4 façons différentes. Donc d'où la nécessité de les amener à changer de posture par rapport aux tâches. Les petits, certains se bloquent, je ne sais pas faire, point final, c'est terminé. Donc de leur faire prendre conscience de leur propre posture, de les travailler, etc., de les identifier. Et je trouve que le travail qui était proposé fait avancer les choses là encore. Nous les avons identifiés toujours à partir de gestes langagiers. Et quelque part, je voulais dire que, pour revenir sur une autre idée qui a été développée, de l'évaluation intégrée aux apprentissages, lorsque l'enseignant change de posture, il est dans un geste d'évaluation. Il vient de voir, il vient d'apercevoir que les élèves étaient mal partis ou étaient partis bien partis, etc. Donc il peut se retirer, etc. Et donc c'est parce qu'il est en état d'observation qu'il va changer sa manière de les aider. Et ce geste d'évaluation en ligne, en action, c'est l'ordinaire du métier. C'est l'ordinaire de l'agir. On est en permanence, y compris nous tout de suite, en train d'évaluer ce qui a été dit pour pouvoir intervenir et revenir dessus. C'est le fondement du métier, l'évaluation, de l'agir, puisqu'on est en train d'accompagner l'action. Et essayer d'éviter de faire à la place de l'autre. mais de lui faire faire. Donc il faut bien qu'on mesure son degré. D'où la difficulté quand on est dans l'enseignement à distance, parce que l'autre n'est pas là. Donc il faut prendre des indices difficiles pour essayer de l'accompagner. Voilà. Donc je voulais revenir un petit peu sur cette idée. Et là, la troisième idée sur laquelle je vais revenir, puis je vais m'arrêter, c'est cette question que vous avez évoquée, mais qui est dans la tête de plein de gens actuellement, en tous les cas de mon équipe, c'est est-ce qu'il y a traduction, homologie entre les gestes professionnels des enseignants et les gestes professionnels des formateurs. Entre les, on a beaucoup travaillé là dans un stage récemment, en master là-dessus, entre effectivement les postures de l'enseignant et les postures du formateur. Les travaux ne sont pas vraiment faits encore, donc il ne faut pas aller trop vite. Prudence. On peut faire l'hypothèse qu'il y a beaucoup de points communs, mais il y a des divergences parce qu'on est en formation d'adultes. Et il y a l'expérience derrière. Et donc, c'est pas la même chose qui se produit. Et on sait très bien que quand on est en formation initiale et en formation continue, c'est pas du tout la même chose qui se passe. Hein? Parce qu'on va beaucoup plus vite en formation continue parce qu'on s'appuie sur des modélisations existantes de l'expérience. Voilà. Donc, et du coup, aussi, je crois qu'il faut qu'on fasse ça. Mais il y a probablement beaucoup de points communs, notamment, il faut retravailler sur une idée qui n'est pas nouvelle, hein, la posture d'accompagnement du formateur. Les travaux de la formation continue depuis longtemps ont postulé cette question d'accompagnement. C'est pas une invention de notre part, hein, c'est vieux ce concept. Hein. Mais à notre avis, il faut le reprendre. Et donc reprendre tes catégories. Moi, je suis pas trop d'accord avec la dernière de tes catégories. Donc ça veut dire qu'il y a probablement des discussions sur la posture d'animation. Hein dans l'analyse de pratique, je ne suis pas trop sûre qu'on soit d'accord là-dessus, mais ça veut dire qu'il y a il faut réfléchir sur ces questions-là. Le reste, ça me convenait suffisamment. Donc, voilà. Et le métier de formateur n'existe pas, hélas. Il n'existe pas. Il a toujours été refusé. Refusé. Nous, actuellement, on est en train de monter des masters pour valider ce dispositif de formation, de formateur, pour aller à des doctorats qui travaillent sur ces questions-là. Ça existe dans certains pays. Chez nous, ça n'existe pas. Il faut réfléchir pourquoi le métier de formateur n'existe pas, a toujours été écrasé, et on va les rééparpiller dans leurs différentes sphères au premier virage politique. Hein ? Donc il y a véritablement une question sur, derrière ce métier de formateur, il y a une professionnalité, il y a des enjeux. Eh bien, il est urgent de continuer d'y réfléchir et de ne pas mettre les choses à... Je vais m'arrêter là. En vous remerciant de votre écoute attentive.
Merci Anne, mais j'ai vraiment trois mots. C'est juste pour dire que j'étais tout à fait d'accord avec Dominique. C'est vrai que le métier de formateur d'enseignant est bon. Formateur tout court, c'est vrai que dans un certain nombre de secteurs, les choses, on a quelques repères, mais s'agissant du métier de formateur d'enseignant, c'est vrai que tout est à construire et souvent ça se construit dans l'activité, quoi, en se faisant. Il n'y a pas réellement.
C'était vraiment trop de mots. Hein. Alors moi je voudrais reprendre deux points. Peut-être n'ai-je pas bien compris la remarque sur Piaget, mais je pense que ce dont il a été question ce matin, c'est bien ailleurs que chez Piaget, quoi. Alors on n'est pas chez Piaget pour deux ou trois petites raisons. Un, on se situe dans un univers classe. Deux, on postule des interactions entre élèves. Et trois, il y a une culture de classe. Donc, je crois qu'on ne peut plus aujourd'hui se satisfaire d'une lecture piagétienne. Elle a été fondamentale, fondatrice de travaux, tout à fait d'accord. Sauf que depuis, il y a quand même un ensemble de travaux qui relèvent l'importance des communautés de pairs, des communautés d'apprentissage, du partage, de la confrontation des cultures, des rituels de classe qui font que, eh bien, on est très loin l'activité régulée cognitivement, quoi. Elle est régulée socialement, culturellement, affectivement, cognitivement. Voilà. Donc ça, c'est un point fondamental aujourd'hui pour penser la classe, les lieux de formation, d'adultes aussi. Hein. Le deuxième type de réflexion que suscite les synthèses que vous avez produites, c'est effectivement l'affirmation que je réitère de l'intrication de l'évaluation dans l'apprentissage. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne fera pas de l'évaluation formative. Tant qu'on considérera que l'évaluation ponctue est à la fin, est en bout de parcours, eh bien, on ne mettra pas en place les conditions d'une évaluation formative pour la classe, pour les élèves. Non pas pour l'enseignant, mais pour les élèves. Alors, je répète à nouveau, une évaluation formative, c'est un processus d'accompagnement d'un apprentissage avec deux gros enjeux. Permettre un éclairage sur les repères pour agir. Un élève ne peut pas agir s'il n'est pas en situation de prendre appui sur des repères. Ces repères, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a pu mettre en place dans la classe en termes de règles du jeu. Alors parfois, ça s'appelle des règles du jeu. Et d'ailleurs, les élèves préfèrent parler des règles du jeu que des critères. Les critères, c'est le travail des formateurs, des enseignants. Moi, pour avoir travaillé avec des élèves de cycle 3, on parlait des règles du jeu. Quelles sont les règles qu'on s'est données? Voilà, ça parle aux enfants. Bon. Deuxième point, on nous pourra parler d'intrication d'évaluation dans les apprentissages, qu'effectivement, muni de ces règles du jeu, mais aussi muni de temps, en installant des temps de structuration à travers les fameuses pauses dont parlait tout à l'heure Dominique, mais en même temps, ces pauses réflexives qui font que finalement, l'enseignant devient candide. Bien sûr qu'il a tout perçu, bien sûr qu'il a vu les choses, mais c'est pas l'enjeu que lui connaisse. L'enjeu, c'est que les élèves s'approprient ces interrogations, s'approprient ces hésitations, s'approprient ces difficultés pour dépasser ces obstacles. Alors, il n'y a pas d'utopie à travailler en tant qu'enseignant autour de l'évaluation. De toute façon, être enseignant, c'est accepter l'utopie. Hein, je vous le rappelle au passage, être formateur également. Mais si on part du principe que la présentation de ce matin est utopique, alors ça veut dire que tous les travaux en évaluation formative qui existent depuis 20 ans sont menés par de grands utopistes. Vous avez utilisé le terme utopie aussi, hein, ne l'oubliez pas. Et l'idéal, c'est justement ce pourquoi on essaie de travailler. C'est-à-dire que l'idéal, aujourd'hui, au nom de l'idéal, un ensemble d'enseignants considèrent que l'évaluation formative est infaisable. Au nom de l'idéal, mais l'idéal de quoi ? Tout à l'heure, il me semblait que dans l'intervention, j'essayais de vous dire, il y a un souhaitable de l'action, il y a un souhaitable du processus, il y a un souhaitable de l'activité. Donc effectivement, on est dans une culture qui est ce qu'elle est, où la notion d'absolu, d'idéal, d'exemplarité freine souvent les initiatives. Or justement, c'est à petits pas, sur des petites modifications, sur des tentatives, des petites innovations, que l'évaluation formative commence à prendre place. Mais à condition, et ça c'est mon prof qui me l'a appris, que l'on donne un grand coup de balai devant nos manières de penser, l'activité, et surtout qu'on réserve beaucoup, 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 beaucoup de place au processus. Alors, au processus dialogique, au processus de mise à plat, au processus de confrontation, parce que je vous l'ai dit, l'évaluation c'est polémique. Accepte-t-on de mettre en place des conditions d'une polémique en classe ?